Nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire arrachée au temps et mise en récit par un texte, des archives et des musiques choisies. Chaque samedi à 19h sur France Culture, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Tandis que l'Algérie se cherche un futur, Jukebox ouvre ce soir un diptyque consacré au passé de ce pays et au développement ultérieur de cette nation. Ce soir, place au lendemain de l'indépendance, ces décennies 60 et 70 qui voient se libérer un formidable appétit musical et culturel sur fond de modernisation de l'État et de lutte nationaliste. Un vent d'optimisme souffle et d'Alger à Constantine et de Tizi Ouzou à Oran, le pays résonne de styles divers, raï, folk, rock, yéyé ou shaabi. Dans cette histoire, on croisera un chewing-gum, des femmes puissantes, des tournées générales, des rallyes automobiles et des voix en exil. Ce soir, Algérie 60-70, année euphorique. Il ne saurait jurer que les choses se sont bien passées ainsi, d'autant que dans le jour qui se lève et la lumière qui déjà envahit tout, se réfléchit, aveuglante, contre la pierre blanche des immeubles d'Alger, se dissipe le parfum de rose qui toute la nuit l'avait porté, enivré. Assis sur son banc face à la mer, dominant la corniche, au milieu des éboueurs et des vieux du quartier, il ferme les yeux pour retenir encore un peu les images de la nuit. Était-ce un songe? N'était-elle pas là encore il y a quelques minutes? Étourdi par l'émotion, la fatigue et le vin, il est pris de vertige, il ne sait plus. Il jurerait avoir marché toute la nuit à ses côtés, tandis qu'ils épuisaient les rues et les promesses. Il entend encore son rire cristallin et il voit ses boucles brunes. Elle lui disait qu'il était tard, qu'elle devait repartir, mais elle restait encore et encore. Et puis il était entré dans un bar pour acheter des cigarettes, et quand il en était ressorti, elle avait disparu sans laisser de traces autre que ce parfum de rose qu'elle portait la veille, tandis que, sous la tonnelle, elle incendiait son cœur à lui, pauvre petite chose perdue ce matin de 1968, face à ses souvenirs et son cœur ardent.
حبيبتي ليا للبستان نور الزهر جلسنا في خفية نعزف بالوطن يا روح ارحم عليا في قلبي شعلت نار منها زاد ضياها فقط بدر الأفلام محلة العشية على ضي القمر جات حبيبتي نيا للبست النوار الزهر جلسنا في خفية نازف بالوطر روح يرحم عليا في المشال تنام نازها ونغني بالله أعذرني محلى زينك العشيه على ضي القمر جات حبيبتي ليا للبسط النوار الزهر جلسنا في خفيه نازف بالوطن يا روح ارحم عليا في قلبي شعلت نار في قلبي شعلت نار في قلبي شعلت نار.
Souvenir de l'embrasement d'un cœur une nuit sous une tonnelle, ce Yamala d'Aelashia par le chanteur El Razi, publié en 1968, immense succès alors, et rappel de cette époque glamour et insouciante où l'Algérie se rêvait moderne et conquérante. El Razi, qu'on surnommait aussi Louz, l'amande en arabe, un mot dont il qualifiait tous ceux qui l'entouraient. Chanteur de charme mais rocker dans l'âme, El Razi, excellent guitariste, avait marqué la scène musicale algéroise avec quelques autres, creusant un style à lui fait d'arrangements plus modernes, plus européens que ceux de la chanson égyptienne qui dominait alors l'Afrique du Nord. El Razi, que certains surnommaient l'Elvis algérien et qui avait ensuite quitté la scène comme un songe. El Razi, qui avait fait ses premières armes à la radio locale de Béjaïa, en Kabylie, lors de galas radiophoniques. Il avait commencé avec des petites chansons humoristiques, comme l'une intitulée « Chewing-gum », moquant cette mode introduite dans le pays par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans d'autres chansons, il se montrait plus ouvertement anticolonialiste, chantant en amazigh, la langue berbère, ce qu'il avait payé, gamin, par plusieurs séjours en prison. Il était ensuite venu à Alger travailler à la Radio Nationale, la troisième chaîne, où il enregistrait régulièrement. Béjaïa, sa ville d'origine qui, après l'indépendance, avait retrouvé un rôle culturel de premier plan, devenant l'un des foyers de revendication identitaire berbère. Retrouvant aussi son rôle économique grâce à son port, le deuxième du pays après celui d'Alger, débouché pour une partie de la production régionale de minerais, de vin, de fruits, de bois, mais surtout pour le pétrole extrait du Sahara. Béjaïa, qui avait alors vu affluer de nombreux ruraux, notamment de Kabylie, entraînant une forte croissance démographique. Mais revenons un peu en arrière, aux toutes premières heures de l'indépendance, lorsque l'Algérie s'apprêtait à retrouver son avenir, ainsi que le disait Louis Jox, le principal négociateur pour la France des accords d'Évian, le 3 juillet 1962.
Au terme de 7 ans de passion, de violence, de deuil, l'Algérie entend retrouver la paix, et dans la paix, choisir son avenir.
Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Paris, tu proposes, tu exposes trop de choses. Jolie bagatelle, étincelle qui m'appelle. Je ne sais laquelle est la plus belle. Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Tout me fait envie, je voudrais mettre Paris dans mon sac. On m'en fait reproche, mais quand elle m'accroche, faut-il que j'approche les yeux dans mes poches? Jolie bagatelle, était-ce elle qui m'appelle? Je ne sais laquelle est la plus belle. Tout est si joli, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Tout est si joli, je voudrais mettre Paris dans mon sac. Oui, je perds la tête, j'achète et j'achète. Je n'aurai plus le sou pour revenir chez nous. Jolie bagatelle, étincelle, m'ensorcelle. Je ne sais laquelle est la plus belle. Puisque celui pour qui j'ai mis tout Paris dans mon sac, et puisque celui pour qui j'ai mis tout Paris dans mon sac, c'est qu'à ma manière j'exagère pour lui plaire. Jolie bagatelle qui m'appelle mon sorcelle, faites-moi plus belle, bien plus belle. La 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 la.
La chanteuse Noura et la naïveté des yéyés pour ce Paris dans mon sac de 1966. Même si pour l'heure, Paris, les autorités algériennes cherchent à la maintenir à distance. Mettant un terme à 132 ans de colonisation et 8 d'une guerre d'une terrible cruauté qui avait fait 500 000 morts, l'indépendance, obtenue politiquement à Évian en mars 1962, est validée lors d'un référendum organisé le 1er juillet et qu'approuve alors 99% des Algériens. Ce qui ne marque pas, loin s'en faut, la fin des hostilités, car ce nouveau pouvoir, encore faut-il, décider entre quelles mains le placer. Si, côté algérien, les accords d'Évian avaient été négociés par une aile du FLN, le GPRA, pour Gouvernement Provisoire de la République Algérienne, cette tendance est contestée par une autre. Ainsi débute l'été 1962, l'été dit de la discorde ou encore la crise des wilayas, qui voit s'opérer une lutte fratricide entre ces différentes factions. D'un côté, le camp représenté par Ahmed Ben Bella et Wari Boumediene. Le premier est un héros de la guerre, auréolé par ses années de détention dans les prisons françaises. De l'autre, le clan incarné par Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem, les leaders du GPRA. C'est finalement Ben Bella, l'ingérable, qui remporte le bras de fer, entre triomphalement à Alger en août 62 et, le mois suivant, prend la tête d'un gouvernement, même si c'est Ferhat Abbas du GRPA qui continue de présider l'Algérie jusqu'en septembre 63. Les débuts sont chaotiques. L'été 62, des milliers de Harkis, ces Algériens qui avaient servi dans l'armée française, sont assassinés. Les Européens qui n'ont pas encore fui le font. Police et justice fonctionnent mal, la sécurité n'est pas assurée. Quant à l'économie, elle reste sous perfusion, incapable de lever l'impôt et voyant son déficit se creuser vertigineusement, l'Algérie en est réduite à solliciter un prêt auprès du gouvernement français, un prêt de 40 milliards. En septembre 63, Ben Bella, déjà Premier ministre, s'empare finalement de la présidence, remplaçant Ferhat Abbas et proclamant, dans un grand cinéma d'Alger, une nouvelle constitution, laquelle consacre l'islam comme religion d'État et la langue arabe comme seule langue nationale. Pour les Kabyles, ces laïcs berbères, le rêve tourne au cauchemar. S'en suivront 2 années d'une répression féroce de ces opposants kabyles soutenus par les socialistes de Hossein Aït Ahmed, une guerre occasionnant des centaines de morts, mais aussi l'exil déjà de nombreux kabyles vers la France, parmi eux un certain Slimane Azem. Né en 1918 dans une famille de petits cultivateurs kabyles, Slimane Azem avait émigré vers la métropole avant l'âge de 20 ans pour aller travailler dans une aciérie de Moselle. Mobilisé dans l'armée française, puis réformé à l'issue de la drôle de guerre, il avait échoué à Paris, était devenu cheminot dans le métro, avant d'être réquisitionné pour le STO et envoyé en Rhénanie jusqu'à la libération. Là, il était retourné vivre à Paris, où il avait tenu un bar dans le 15e arrondissement, s'entourant de musiciens et se mettant à composer et à enregistrer lui-même des chansons engagées. en 47, tandis que le chômage poussait nombre d'Algériens vers la métropole, lui avait effectué le chemin inverse et était revenu s'installer en Kabylie, chantant, traînant dans les mouvances nationalistes, appelant de ses voeux une Algérie indépendante et les Français, qu'il surnommait les criquets, à quitter les lieux. La suite pourtant tourne mal. Est-ce parce que, pendant la guerre d'indépendance, son village natal s'était rallié à l'armée française, ou bien en raison de critiques qu'il formule à l'égard du nouveau pouvoir algérien? Toujours est-il qu'il se retrouve interdit d'antenne en Algérie et, craignant pour sa vie, s'exile pour la France dès 1962, continuant de chanter à distance les charmes de son pays, la fragilité des hommes face à l'alcool, les traditions bouleversées, devenant une voix légendaire pour les berbères de Kabylie qui se procurent ses albums sous le manteau ou bien l'écoutent religieusement lors du quart d'heure kabyle, une émission animée par une certaine Meriem Abed et diffusée par Ouna Bariz, Radio Paris, une antenne de Radio France relayant une station locale basée à Tizi Ouzou. Quant aux exilés parisiens, ils s'arrachaient ses albums Boulevard de la Chapelle dans la boutique de Madame Sovia, une auvergnate devenue disquaire de musique orientale et maghrébine à Paris.
Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir, j'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Algérie, mon beau pays, publié en France dans les années 70 par le chanteur Slimane Azem. Mais retour donc en Algérie où cet automne 1963, Ahmed Ben Bella est au pouvoir à tous les étages. Instaurant un pouvoir fort, Ben Bella lance d'abord une vaste réforme agraire afin de nationaliser les terres des colons. Laquelle réforme produit des résultats décevants et la casse de beaucoup de tracteurs. Sur le plan musical, après 8 années de guerre, le pays est traversé par un intense désir de s'amuser. Le raï traditionnel des mariages et des cérémonies se transforme pour donner naissance à une musique plus interlope, plus irrévérencieuse, une musique des marges, pleine d'alcool et des plaisirs de la chair. Une musique qui est partout dans les cabarets et les boîtes de nuit d'Oran ou d'Alger. Les Algériens qui ont aussi soif de consommation culturelle et depuis les années 50, l'essor du micro-sillon permet l'éclosion et la diffusion de nouveaux artistes, notamment des femmes. Ainsi, la chanteuse Noura, née en 1942 près de Cherchel, à l'ouest d'Alger, qui avait débuté dans les années 50 à la radio d'Alger où elle anime une émission destinée aux enfants, interprétant des petites scènes de théâtre et des opérettes, devenant très populaire, d'autant qu'elle était alors l'une des rares chanteuses non kabyles capables néanmoins de chanter dans cette langue. Elle devient ainsi l'égérie de la nouvelle chanson nationale, la variété de l'Algérie indépendante, sur des compositions de son mari, un certain Kamel Hamadi, avec qui elle forme un couple célèbre.
يا بنات الحومة الحفلة راهي مقيومة راني مغرومة راني مغرومة راني مغرومة زغرت وما بقيت ملومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة في عرسي تغني وانتوما فيدي وشموعي بالفرحة تجدي الحنة فيدي وشموعي بالفرحة تجدي اتسكم سعدي لعقوبة ليكم من طومة اتسكم سعدي لعقوبة ليكم من طومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة الحفلة راهي مقيومة راني مغرومة راني مغرومة راني مغرومة زغرت وما بقيت ملومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة في عرسي تغني وانتوما هنوني وغدوة نهنيكم سعدي بمجيكم هنوني وغدوة نهنيكم يبارك فيكم بيكم الفرحة متمومة يبارك فيكم بيكم الفرحة متمومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة الحفلة راهي مقيومة راني مغرومة راني مغرومة راني مغرومة زغرت وما بقيت ملومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة يا بنات الحومة في عرسي تغني وانتوما
Ya Benet El Houma, traduisez les filles de mon quartier par la chanteuse Noura, évocation de la convivialité féminine, convivialité et entraide entre femmes qui répond notamment à une certaine hostilité manifestée à leur endroit par nombre d'hommes, comme le regrette en 1968 une certaine Zora Selami, journaliste d'esprit libre et cheveux courts, interviewée par Robert Bouchard de l'ERTF.
L'indépendance, qu'est-ce qu'elle vous a apporté sur le plan personnel ?
Sur le plan personnel, rien du tout. Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est à peu près la même chose. Pour moi, ça n'a strictement rien apporté, pour les femmes en général non plus, si ce n'est qu'on a fait des grands discours, qu'on a déclaré l'égalité de l'homme et de la femme, mais que dans les faits, il n'en est rien, c'est tout. C'est très simple, mais c'est normal, puisque les structures sociales ne peuvent pas être changées ni en un an, ni dans cinq ans, ni dans 10 ans, à moins d'une véritable révolution.
Alors là, vous avez quitté vos parents, vous avez quitté votre père. pour quelque
oui,
temps.
Oui, j'avais fait une dépression nerveuse l'année dernière, évidemment, à cause justement des conditions assez particulières qui conditionnent notre vie. Et je m'énerve ou craquer, comme des tas de filles d'ailleurs. Moi, ça n'a pas été tellement grave, je n'ai eu qu'un mois d'hôpital. D'autres en sont mortes, moi je suis vivante.
Ces dépressions nerveuses qui sont assez fréquentes à Alger, c'est uniquement sont provoquées par des rapports tendus qui existent entre les pères et les filles.
Oui, absolument. Non seulement avec les pères et les filles, mais avec la société et les femmes. Il y a une société en quelque sorte méfiante et hostile envers les femmes, c'est tout. Et le fait que dans la rue, on voit fort peu de femmes, elles se sentent exclues en quelque sorte du public et de la société. Elles ne sont que supportées, c'est tout, on les supporte.
Interrogée en 1968, l'ancienne du FLN de tendance révolutionnaire, Zora Selami, qui avait été emprisonnée les années 63-65 sous le règne d'Ahmed Ben Bella, que des années plus tard, elle épousera lorsque celui-ci sera renversé par Boumédienne. Mais restons encore quelques instants parmi les femmes, et notamment les femmes puissantes qui donnent de la voix, à l'image de l'immense Sheikha Remiti. D'origine modeste et paysanne, très tôt orpheline, la jeune Saïdia avait été élevée et exploitée par des patrons qu'elle avait quittés à l'adolescence pour suivre une troupe de musiciens nomades, des bédouins allant de village en village, se produisant lors des mariages ou des fêtes, vivant de la générosité des uns et des autres, dormant dans les marabouts, les tombeaux des saints, et puis dansant. Elle s'était ensuite lancée dans la chanson, dans les années 40, à Rélizane, à Oran, puis à Alger, servant le raï traditionnel, l'ancienne musique d'origine bédouine, née à la fin du 19e siècle, une musique qu'elle est alors l'une des premières femmes à chanter, accompagnée des instruments traditionnels, flûte et percussions, faisant résonner sa voix lancinante et androgyne dans les bars où elle gagne son surnom en appelant les patrons à remettre une tournée générale. « Remettez, remettez-moi ça !» Rimiti, avec l'accent du pays. Sheikha Rimiti, qui dès 54 s'était attiré une réputation sulfureuse avec le titre Sharagata, le titre que l'on entend en ce moment et qui signifie « déchire, lacère et Rimiti raccommodera ». Un titre publié par Pathé Marconi et qui constitue une attaque à peine voilée contre le tabou de la virginité. Elle y chante « Il me broie, il me bleuit, il m'attise, il m'abreuve, je dis je pars et pourtant je passe la nuit, malheur à moi qui ai pris de mauvaises habitudes ». Certains politiques algériens, adeptes d'un islam strict et prude, voient de travers cette superbe blonde, ou brune, c'est selon, mais plantureuse, arborant robe courte, boucle d'oreille et chantant de sa voix rauque l'amour, l'alcool, les corps emmêlés et la liberté. Ces années 60-70, l'Algérie, qui connaît un boom économique et de nombreux grands travaux, voit se développer une sorte d'aristocratie d'ouvriers et de cols blancs, gagnant assez bien leur vie pour fréquenter les cabarets où ils dépensent sans compter. C'est eux que Sheikha Remiti décrit dans la chanson suivante, intitulée « La Camelle ». Ces ouvriers du port méthanier d'Azrou, à l'ouest d'Oran, dilapidant leur temps libre et leur argent en alcool et en plaisir de la chair, des loisirs évidemment proscrits par l'islam. France Culture, Jukebox, ce soir, l'Algérie, enfin libre. وجبناها الفرنساويه على كمال لكم هيال هذيك العروسه ديناها الفرنساويه على كمال لكم هيال اي ورزي وزينه طبح هذاك النخل وياها على كمال لكم هيال ورزي وزينه طبح هذاك النخل La Camelle, enregistrée au début des années 70 par l'immense Cheka Remiti. En juin 65, le président Ben Bella est finalement renversé par son allié d'hier, le colonel et ministre de la Défense Houari Boumediene. Boumediene qui restera au pouvoir jusqu'en 78. Sa présidence, autocratique, continuera de faire couler le sang de certains opposants, étant toutefois marquée par une incontestable modernisation du pays. Soutenu par une croissance forte et régulière, le nombre des emplois y est multiplié par deux, porté par la création de nombreux projets industriels et la nationalisation de plusieurs secteurs stratégiques, comme les mines, les compagnies d'assurance ou les hydrocarbures. L'administration se décentralise, les travailleurs bénéficient de plus de protection, l'éducation se généralise, les universités sont construites sur tout le territoire, tandis que d'un point de vue social, la santé devient gratuite et accessible à tous. Partisan de l'égalité homme-femme, Boumediene tentera même d'interdire la polygamie, sans succès, mais il encourage néanmoins la scolarisation des filles et la mixité scolaire. Mais les écueils, hélas, ne manquent pas.
ستاشم سناق الجيبس ميث طفات قرنيس في الصدنات يا الحنكيس اي متاواني قوانيس فجيتي روح امي
الصباح تشعل ذاك صوت غروم تاجيل سرسات سناث التابسين أماكن قخامي قلنا إن شاء الله هذي وغال أتحرزات قربي أذ توزيان فاق شيشي جوجات صف مغرب ورتروق 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 أثام غار ورتروق ورتروق ما دقشي شادي شاس الداوي ثران تصوير سياري فالسنين تخمم الثروة المحان تزري تتشات وشان مكثي دسمي في دوي
Originaire de Béjaïa en Kabylie, le chanteur Jamel Alem pour ce titre Oristrou qu'on peut traduire par Ne pleure pas. Le premier festival panafricain n'est pas un divertissement général qui nous distrairait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous à mener en Afrique, qu'il soit celui du développement ou de la libération nationale. Le colonialisme est un mal que nous avons tous subi, vécu, dont nous avons triomphé, mais son mécanisme est complexe. Le colonialisme est dans son essence, comme dans son esprit, un acte total. Il ne peut qu'ajouter à sa domination matérielle une emprise sociale et culturelle.
L'été 1969, Alger est devenu un symbole, un carrefour des luttes anticoloniales, mais aussi des luttes pour l'émancipation des Noirs. C'est là, par exemple, qu'a trouvé refuge les mois précédents le leader des Black Panthers, Eldridge Cleaver, recherché par la justice américaine pour tentative de meurtre. Alger, où les révolutionnaires noirs se rendent presque comme à un pèlerinage. C'est alors que, la dernière semaine de juillet 69, la ville accueille un événement dont l'aura ultérieure sera immense, le premier festival culturel panafricain. Lancé, on l'entendait, par un discours du nouveau président Boumédienne, la manifestation est ouverte le premier soir par une immense parade dans les rues d'Alger, au cours de laquelle défilent tous les pays participants. Par la suite, pendant une semaine, chaque soir ont lieu des concerts, des spectacles de rue, des expositions, des projections, des conférences. Pour l'occasion, des dizaines d'estrades sont érigées sur les plus grandes places d'Alger, celle de la Grande Poste, celle du 1er mai, celle des Trois Horloges à Bab El Oued. Les gamins d'Alger et leurs familles en prennent plein les mirettes. Au milieu des groupes chantant le Shaabi, leur parviennent d'autres rythmes venus des quatre coins du continent et puis ceux véhiculés par les figures militantes de la cause noire, ainsi le jazzman Archie Shepp qui fait résonner les premières grilles de jazz jamais entendues sur place. La fin des années 60 qui voit en Algérie se développer les rythmes les plus divers. Émergent par exemple des compositeurs comme Ahmed Malek, un natif d'Alger qui très tôt se tourne vers le cinéma pour qui il compose la décennie 70, la musique d'une trentaine de films de télévision et surtout donc de cinéma. Citons les longs métrages comme Les vacances de l'inspecteur Tahar, sorti en 72, ou bien la musique du film Omar Gatlato de 1976 et qui servira par la suite de générique à l'émission phare Télé Ciné Club, une émission animée par Ahmed Bejaoui et qui propage les films d'Alfred Hitchcock ou de Bergman. Ce tournant des années 60-70 qui constitue d'ailleurs l'âge d'or d'une certaine cinéphilie algérienne. Les cinémas qui ne les emplissent pas. Et puis se multiplient les ciné-clubs, certains ambulants sillonnant le pays sous la devise « vers le socialisme par le cinéma, en dehors de toute censure ». La production locale est florissante à l'image du film « Chronique des années de braise » de Mohamed Lakhdar Hamina et qui décroche la Palme d'Or à Cannes en 1975. Musicalement, se constitue aussi une sorte de scène pop modernisant les rythmes du raï à Alger, mais aussi dans d'autres villes du pays comme à Oran ou bien encore plus à l'ouest à Tlemcen, à la frontière avec le Maroc, une ville davantage réputée pour être le bastion des musiques savantes, des musiques arabo-andalouses. Là, deux jeunes types, des fils de riches bijoutiers de la ville, Rachid et Fethi Baba Ahmed, jouent du rock, ils reprennent des tubes de twist. Ils fondent d'abord un groupe, les Vautours, avant, en 1969, de former un duo pop mêlant rythme moderne et variété algérienne. Ce groupe qui s'appellera tout simplement Rachid et Fethi et qui n'est pas sans rappeler le style des frères Maigri, ces Marocains qui sévissent à l'époque de l'autre côté de la frontière. Au début des années 70, le duo se fait connaître par quelques tubes diffusés à la télévision algérienne et puis, le succès aidant, ces deux frères décideront de monter leur propre studio d'enregistrement et puis un label qu'ils baptisent Rally, clin d'œil à leur passion commune pour les courses automobiles auxquelles ils participent régulièrement. Le label Rally qui, en 76, publie l'album que les deux frères signent et qui comporte notamment ce titre « Habit Anish ».
Le groupe Rachid et Fethi pour ce Habit en Ish de 1976. Les deux frères qui se lanceront ensuite dans la production de Rai, Fethi s'occupant de la gestion, quand Rachid s'occupera lui des choix artistiques. Rachid qui tombera assassiné à Oran en 1995, mettant un terme à l'aventure. Mais pour l'heure, cette décennie 70, avant que ne déferle la technologie des cassettes audio, cette décennie 70 constitue l'âge d'or de l'industrie des 45 tours, une production de vinyle de Rai modernisé, mais aussi de pop, de folk, qui, sans avoir droit de cité sur les ondes officielles les conservatrices de la RTA, la radio algérienne, échappe curieusement à la censure. Ainsi se multiplient les groupes, arborant favoris, cheveux longs et vestes afghanes, mixant influences arabes et sonorités électriques, de la musique qu'ils jouent sur des petits amplis dans des soirées étudiantes. Parmi ces groupes, les Abranis, formés en 67 autour du chanteur et bassiste Mohan Tahar, dit Karim Abranis, et de Shami Elba Chemini. Deux types qui s'étaient découverts un goût commun pour les Grateful Dead, les Doors ou bien les Who. En 1974, ils avaient sorti leur premier single et, trois ans plus tard, paraissait leur premier album, comprenant notamment leur plus grand succès, ce morceau intitulé « Chenar le blues, réponse orientale aux Doors ».
عفوه يكسد دمع جنا على برز دي لندن نتصلع رب في نورين جنا على برز دي لندن للميزان دينا ولفن للميزان دينا ولفن أما الرش شمث حذاين ضروا كنرول اللي يتحبين
Les Abranis pour ce Chenar le blues de 1977, un titre publié par Oasis Disque, un label mais aussi un disquaire mythique d'Alger situé rue Khalifa Boukhalfa et où chaque semaine on pouvait dénicher les nouveautés.
C'est là que, l'année précédente, en 1976, la jeunesse algéroise avait découvert un 45 tours intitulé « Avava Inouva », interprété par une certaine Zara, accompagnée d'un chanteur inconnu venu de Kabylie, Hamid Chériet, qui se fera plus tard connaître sous le nom d'Idir. Avava Inouva, autrement dit mon petit papa chéri, berceuse évoquant les veillées dans les villages des montagnes kabyles, là où se transmettent les contes et enseignements traditionnels. Le refrain de la chanson étant d'ailleurs une allusion à un conte dans lequel une jeune fille sauve son père, prisonnier d'une forêt peuplée d'ogres et de fauves.
برنوس دي السيالة يزيزين ميس يتحف بير القوت وسندق قاروس تزين مغار يتسل ذوق برنوس دي السيالة يزيزين ميس يتحف بير القوت وسندق قاروس تزين سليت ذفير وزطات السليتي جبادين أرش الزنديد مغار تاسند صغار تقديمين سليت ذفير وزطات السليتي جبادين أرش الزنديد سنت صغار في قديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزنديد مغار يا لا لا يا لا 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 سنت صغار في قديمين سفتي ذكراكيني ذنيان ملال انداك واذ وخامث ما شاهو تادسلان مذاق جمورا انت سفتي ذكراكيني ذنيان ملال انداك واذ وخامث ما شاهو تادسلان يا لا لا يا لا 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 ملال انداك واذ وخام يا لا لا يا لا 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 اذ ما شاهو تادسلان.
Avava Inouva par le chanteur Idir en 1976. Idir qui, dès lors, deviendra l'un des ambassadeurs de la culture berbère. Cette question kabyle faisant l'objet de censure et qui demeurera l'une des principales ombres au tableau d'un pays qui, depuis deux décennies, et notamment la présidence de Boumédienne, s'était considérablement développé, passant entre 62 et 82 de 10 à 20 millions d'habitants, dont presque la moitié d'urbains, gagnant deux fois mieux leur vie, scolarisés à 80%, loin des 10% de l'Algérie française. Une Algérie où pourtant l'affairisme et la corruption prennent leurs aises, favorisant depuis les années 70 le repli de chacun vers la débrouille, ce qui plus tard précipitera la montée en puissance des islamistes. Enfin, politiquement, mieux valait filer droit, une seule tête derrière le parti unique, et gare à la sécurité militaire, la redoutable SM, qui depuis l'indépendance traquait les ennemis du peuple, faisant régner la terreur.
C'est sur ce titre interprété par le chanteur Mexa que se referme ce numéro de Jukebox, ce soir Algérie 60-70, année euphorique. Réécoute, téléchargement, liste des morceaux diffusés et référence des archives, tout ça c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox où vous pouvez également nous faire part de vos commentaires. Merci à Rafik Zénine ainsi qu'à Nabil Djedouani pour leurs conseils ainsi qu'au Centre culturel algérien de Paris. Jukebox, c'est Chouchen Djergaillan et Antoine Villoz à la préparation avec l'aide d'Annie Lozana Alina. À la technique, c'était Valérie Lavalard, Agnès Catou à la réalisation, au micro Amaury Chardot. À samedi prochain pour la suite de cette série. Nous serons dans l'Algérie des années 90-2000.